Alors, je crains de m'en tenir à des platitudes après l'exposé de Bernard Pivot. On avait commencé à discuter ensemble tout à l'heure, au cours du déjeuner, et je crains également de me retrouver dans l'anthropologie misérabiliste de l'être de besoin qui récusait tout à l'heure. Mais tant pis, je ne peux pas changer mon intervention aux dévotés comme ça, donc je vais tout de même la faire. Je vais aussi évoquer un champ référentiel qu'on a un peu balayé, et même plus que ça hier, avec les exposés de Philippe Chagnal et puis surtout de Caroline Tixier, puisque je vais reparler de Bourgeois et de cette littérature solidariste. Ceci en lien avec une question qui m'intéresse, qui est la question de la démarcation de ce secteur qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, justement, sur ce débat concernant la définition de l'ESS, hein, économie sociale et solidaire, il faut savoir que ce débat est aujourd'hui pris dans une sorte de double polarité, au milieu d'un champ de forces contraires qu'on pourrait caractériser de la façon suivante. D'une part, nous avons une dynamique qu'on pourrait dire de déspécification, hein, de la définition de l'ESS, hein, une dynamique qui contribue à brouiller, voire à effacer complètement la ligne de démarcation qui sépare l'ESS de l'économie marchande classique. Et la promotion aujourd'hui de thèmes comme ceux de la RSE, hein, ou comme ceux de l'entrepreneuriat social, je crois, participe de ce mouvement qui tend à déspécifier ou à désenclaver l'économie sociale et solidaire, et en même temps, du coup, à rendre de plus en plus perméable la limite qui la sépare effectivement du reste de l'économie. Mais en même temps, il y a un autre mouvement qui anime ce débat sur la définition, qui est tout à fait contraire. Un mouvement qui nous invite à résister à cette dynamique de déspécification que je viens d'évoquer et à reconnaître à l'ESS des propriétés, des caractères distinctifs, en tout cas suffisamment distinctifs, pour que l'ESS fasse légitimement l'objet d'un traitement politique et juridique également, à part du reste de l'économie. Mouvement donc de caractérisation, de démarcation conceptuelle de l'ESS, tendance que je vois à l'œuvre dans le travail aujourd'hui de ceux et celles qui participent justement à l'élaboration de critères de définition ad hoc, hein, de l'ESS. Pensons au projet qui a été discuté le mois dernier à l'Assemblée nationale, le projet de loi Hamon, qui cherche à élaborer une certification aux entreprises et organisations qui participent de l'ESS. Bon, c'est cette problématique de la démarcation, donc ce deuxième mouvement, hein, qui m'intéresse ici aujourd'hui. Je voudrais poser et argumenter la question suivante. N'y aurait-il pas avantage à inscrire la notion de propriété sociale, la notion solidariste, puisque nous avons entendu d'autres notions, d'autres acceptions de ce syntagme de propriété sociale que l'acception solidariste. Ici, je vais entendre simplement l'acception solidariste. Donc, y aurait-il pas intérêt à utiliser cette notion solidariste de propriété sociale, et qui a été examinée, hein, hier matin, par mademoiselle Texier, Caroline Texier, parmi les déterminants définitionnels de l'ESS. Autrement dit, la propriété sociale pourrait-elle constituer un élément de cette définition, un élément structurant de cette définition de l'ESS, susceptible de consolider, in fine, une critériologie aujourd'hui assez malmenée, assez mise en cause par le développement tous azimuts, il faut bien le dire, de ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà la question que je voudrais poser et approfondir. Pour ce faire, au risque effectivement de répéter ce qui a déjà été un peu dit hier matin, je vais commencer par donner quelques éléments de présentation du concept de propriété sociale dans sa variante ou dans sa version solidariste, sa place et sa définition dans cette doctrine de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, sa différence et ses ressemblances au plan que je vais distinguer au plan substantiel, hein, et au plan fonctionnel avec le concept classique, le concept bourgeois de propriété, hérité du 19e siècle, de propriété privée. Et enfin, sa réactualisation dans les travaux de sociologues contemporains, comme Robert Castel, qu'a évoqué tout à l'heure Bernard Rio. Dans une seconde partie, que je ne vais qu'esquisser parce que je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Je vais examiner la possibilité et l'intérêt d'importer pareil concept dans les débats actuels concernant la définition de l'ESS, l'intégration de la notion de propriété sociale dans la compréhension donc de l'économie sociale et solidaire est-elle susceptible d'aider effectivement à sa démarcation par rapport à l'économie marchande classique? Quel serait alors le statut de ce nouveau déterminant au sein de la critériologie de l'ESS? Est-ce qu'il aura un rôle subsidiaire, un rôle de complément, hein, ou pourrait-il véritablement servir de critère alternatif aux critères juridiques et managériaux classiques qui sont utilisés pour définir l'ESS? Bon, il ne s'agit pas de se dissimuler les difficultés d'application de ce concept de propriété sociale, mais il s'agit aussi de mesurer, je crois, toute la portée du challenge qui vise à opérationnaliser, si je puis dire, la propriété sociale en tant que critère de définition de l'ESS. D'une ESS, encore une fois, urgemment appelée aujourd'hui, dans le contexte de la crise économique, dans le contexte qui est celui du retrait ou d'une diminution des aides publiques, à répondre au défi de sa démarcation par rapport au reste de l'économie. Je commencerai par ce qui peut sembler donc une affirmation paradoxale, je crois, mais tant pis, je me lance quand même. Vu l'importance que j'accorde en même temps à ce concept par ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse dire que la propriété sociale figure parmi les concepts clés de la doctrine solidariste, parmi les concepts princeps de cette doctrine. Les concepts clés du solidarisme sont les suivants, il me semble. On peut en faire assez vite l'inventaire parce que finalement ils ne sont pas si nombreux que cela. C'est d'abord solidarité, ou plutôt loi de solidarité, hein, pour souligner la dimension naturaliste que les solidaristes visent lorsqu'ils parlent de solidarité. Interdépendance, association, contrat et quasi-contrat, qu'avait bien examiné hier Caroline Tixier, et enfin dette sociale. À ces notions, on pourrait rajouter un certain nombre de notions d'ordre secondaire, sinon directement impliquées, en tout cas afférentes au concept de dette sociale et que les solidaristes empruntent au droit, en fait, empruntent au vocabulaire du droit et de l'ingénierie assurantielle qui se met en place à cette période, d'ailleurs. Les notions d'assurance, de compte social, de balance des profits et des pertes, d'obligations mutuelles, notamment. Mais dans toute cette liste, vous voyez, pas encore de propriété sociale. Et en fait, ce concept de propriété sociale, comme ça a été quand même un peu rappelé hier, a été, sinon forgé, du moins développé et systématisé, pour la première fois, en tout cas dans cette mouvance solidariste, par Alfred Fouillé dans son ouvrage de 1884 qui s'appelle « La propriété sociale et la démocratie ». La propriété sociale et la démocratie. Alors bien sûr, Fouillé emprunte certaines composantes de ce concept, par exemple l'idée de propriété exclusive de tout abus jus, il l'emprunte à des juristes ou à des historiens, à des auteurs antérieurs qu'il cite d'ailleurs, par exemple le belge économiste Émile de Lavelay, auquel se réfère Fouillé dans son ouvrage. Mais c'est lui, c'est Fouillé tout de même, je crois, qui le premier donne à cette notion de propriété sociale sa cohérence et sa systématicité. C'est lui aussi qui lui confère sa véritable portée sociétale, ou même presque civilisationnelle, en lui prédisant effectivement une dimension sociale tout à fait considérable dans les démocraties industrielles du XXe siècle. Or, Fouillé est plus un pré-solidariste qu'un solidariste en tant que tel. Je ne sache pas d'ailleurs qu'il se soit jamais réclamé de l'approche solidariste dans les années 1890-1900. Il était d'une génération antérieure à Bourgeois, au moment où se structure intellectuellement le mouvement autour de Bourgeois, de Chargis et d'autres. Cela étant dit, on retrouve cette idée de propriété sociale, ou des idées quand même fort voisines, sous la plume de solidaristes authentiques, et qui se revendiquent comme tels, comme Chargis justement, ou de penseurs sensibles, évidemment, à l'approche solidariste du traitement des questions sociales, comme Jaurès. Mais nulle part, elle ne se trouve, je crois, poussée à ce degré d'élaboration et de systématisation qu'on voit chez Fouillé. Alors, pour définir la propriété sociale, je vais reprendre, finalement, la caractérisation qui est proposée par Alfred Fouillé dans son bouquin. Oui, je peux te laisser mettre, voilà, le premier slide. Je lis rapidement cette définition. L'État peut, sans violer la justice, donc l'État, référence tout de suite à l'État, on voit la dimension étatiste de la chose, sans violer la justice et au nom de la justice même, exiger des travailleurs un minimum de prévoyance et de garantie pour l'avenir. Car ces garanties du capital humain, qui sont comme un minimum de propriété, donc il reprend, il s'approprie le terme de propriété pour rapatrier derrière ce terme, effectivement, ben les salaires indirects, hein, les cotisations sociales. Débat avec Bernard Friot sous ce rapport. Un minimum de propriété essentiel à tout citoyen vraiment libre et égal aux autres sont de plus en plus nécessaires pour éviter la formation d'une classe de prolétaires fatalement vouée soit à la servitude, soit à la rébellion. On retrouve les motifs bismarckiens derrière cette dernière considération de Fouillé. Alors, comme l'a bien analysé les sociologues comme Robert Castel, hein, il y a beaucoup de choses, je crois, dans cette définition. Si on fait le compte, on y trouve d'abord l'affirmation du principe de l'obligation, obligation assurantielle pour le salarié. On y trouve la thèse d'un lien intrinsèque, et c'est tout à fait essentiel, d'un lien intrinsèque entre propriété et citoyenneté. On y trouve l'affirmation du rôle normatif ou juridictionnel de l'État en matière sociale. Mais on y trouve surtout ce raisonnement analogique, hein, et comme un capital, hein, ce raisonnement analogique exprimé par la conjonction comme un minimum de propriété, pardon, plutôt que comme un capital. Tout se passe comme si la propriété sociale voisinait, confinée à la propriété privée, s'entend, hein, tout en n'étant pas de la propriété privée. Alors, pour être plus précis, ce que Fouillé suggère ici, je vais m'apesantir un peu sur ce point, c'est une définition de la propriété sociale qui, contrairement à la propriété privée, se trouve déconnectée de l'idée de la possession d'un bien, hein, d'un bien ou d'un service, tout en restant articulé à l'idée de jouissance nominale, hein, d'un bien. Et ça renvoie effectivement à ce qu'on disait hier à propos des biens rivaux. Hein. Jouissance nominale, c'est-à-dire le bien ou le service dont je jouis, l'autre ne peut pas en jouir. D'accord ? Donc il s'agit d'une définition qui renvoie à l'idée assez provocatrice, je crois, et assez paradoxale pour un homme du XIXe siècle, de la possession de droits assimilables ni à des droits civils, ni à des droits politiques, hein, mais de droits ouvrant accès à des revenus ou à des jouissances du même type que celles, à propos des jouissances, que celles que procure l'usage, hein, justement, de jouissances ou de biens. Hein. Et on a aujourd'hui une expression qui, effectivement, caractérise bien ce type de droit. C'est l'expression qu'on a citée hier, de droit tirage ou droit créance, hein, qui renvoie bien, je crois, à cette définition. Donc, de droit qui plus est... dont le propriétaire, hein, ou le possesseur est certes une personne privée, c'est une personne particulière qui est pensionnée, qui touche une retraite, qui touche une assurance chômage, c'est une personne nominalement définie, donc de droit dont le propriétaire est une personne privée, mais un propriétaire qui ne peut, c'est ça l'essentiel, qui ne peut en disposer de façon absolue, hein, par exemple en le vendant, ou en le donnant, ou en le détruisant, en utilisant en fait toutes les modalités de l'abus. Alors, maintenant, il y a quelque chose d'ironique, tout de même, dans cette histoire de la propriété sociale, quand on y réfléchit un peu, de la propriété sociale au sens solidariste. C'est un concept qui s'est vu rétrospectivement conférer une importance théorique et pratique également, que n'avaient pas imaginé ses premiers utilisateurs Fouillé en premier lieu. Et je crois que c'est d'ailleurs aussi ça, en général, l'actualisation d'un concept. Hein. Mis à part Fouillé qui en donnait quand même une extension qu'on peut juger outrancière par ailleurs, hein, puisqu'il entendait par exemple le suffrage universel comme une des modalités de la propriété sociale. Donc vous voyez, il rapatriait derrière la propriété sociale beaucoup de choses. Je ne vais pas aller jusque-là. Bon, mis à part Fouillé, effectivement, personne n'avait mesuré, avant que des sociologues contemporains comme Robert Castel ne le dégagent dans des études d'ailleurs assez récentes, des études des années 2000, hein, la fonction unificatrice, la fonction structurante que cette notion est susceptible de jouer dans la compréhension de dispositifs finalement assez disparates, apparemment sans lien les uns avec les autres, mais également cruciaux dans le fonctionnement de nos social-démocraties. Enfin, je pense d'abord aux institutions d'assurance sociale, je pense aux services publics, hein, l'éducation, la santé, le transport, la justice, et je pense au logement social. Ces dispositifs apparaissent aujourd'hui à l'analyse comme également générateur d'une propriété pour l'individu, mais d'une propriété d'une forme particulière, d'une propriété sociale, justement, hein, Et sans doute fallait-il retrouver la force de ce concept de propriété sociale forgé par Alfred Fouillet pour dégager ces liens, pour opérer cette synthèse, pour opérer ce remembrement hein, au sein de nos institutions social-démocrates. Je reviens maintenant à la question des ressemblances justement et des différences entre les deux types de propriété, entre la propriété privée et la propriété sociale. Il y a évidemment des analogies, hein, c'est pas pour rien qu'on parle de propriété sociale. C'est pas pour rien que ce terme a été choisi par Fouillet et par bien d'autres pour qualifier les revenus de remplacement, notamment. Et c'est pas pour rien qu'il est repris aujourd'hui par des sociologues comme Robert Castel. Ou comme d'autres, hein, comme Serge Pogam ou Isabelle Astier également. Ces analogies, je crois, en fait, sont de deux ordres que je vais distinguer. Analogie au plan de la substance, analogie substantielle et analogie fonctionnelle, sur le plan de la fonction. Analogie au plan de la substance, c'est l'analogie, je crois, la plus évidente, celle qui existe entre les revenus, hein, entre les revenus des assurances sociales, qu'on appelle aujourd'hui effectivement revenus de remplacement ou revenus de transfert, versés en cas d'incapacité provisoire ou permanente de travailler, et les revenus du patrimoine privé, les rentes, les profits, les dividendes, les intérêts d'épargne, etc. Il y a évidemment beaucoup de ressemblances entre ces revenus, et les premiers méritent aussi d'être appelés propriété. Il le mérite parce qu'il s'agit également d'un bien, d'un revenu, dont on est nominalement ou personnellement bénéficiaire. C'est vous-même qui touchez votre retraite, ce n'est pas la personne d'à côté. C'est là la différence d'ailleurs, je crois, avec la propriété publique, hein, dont la jouissance est anonyme et ne requiert pas d'être personnellement attribuée. Pensons à l'usage d'un édifice public, par exemple. Mais en même temps, il existe des différences non moins notables entre ces deux formes de propriété, propriété sociale et propriété privée. Ces différences ont été bien vues à l'époque par des auteurs qui ne parlait pas de propriété sociale expressis verbis, mais dont la réflexion sur les implications des assurances sociales obligatoires les ont amenés à en saisir pour partie, je crois, le concept, même si c'était pour en rejeter d'ailleurs l'application lorsqu'ils étaient libéraux. C'est le cas, par exemple, d'un député conservateur qui s'appelait Denis Cochin hein, et qui, au cours d'un débat sur les fameuses retraites ouvrières et paysannes, les fameuses ROP, votées seulement en 1910 en France, le 25 juin 1901, on est presque 10 ans avant le vote de la loi, apostrophait ses collègues de l'Assemblée dans les termes suivants. Je peux te laisser passer le slide. Non, alors celui-là, je ne vais pas le citer ouais, parce que c'était un peu long. Voilà l'extrait de l'apostrophe de Denis Cochin. Quand vous aurez donné à l'ouvrier un conseil judiciaire pour l'obliger à verser ses économies dans votre caisse de retraite, en plus il est contre, hein, vous l'aurez privé de bien d'autres emplois qu'il aurait préférés. À la campagne, il achète un champ, une maison, du bétail, à la ville, un outil ou un petit fonds de commerce, il a connu l'accession au patronat. Vous le retenez dans le salariat, en exigeant un emploi exclusif de son petit capital, en lui imposant un seul mode de placement. Voyez-vous, messieurs, le tort de votre projet est de partager les citoyens en deux classes, de les séparer en deux clans, celui des patrons et celui des salariés. En réalité, les deux clans se pénètrent, les deux classes se confondent. Vous cherchez en vain l'ouvrier économe sur vos listes de pensionnaires, il est devenu patron, il est devenu bourgeois sans vous prévenir et sans avoir besoin de vous. Cochin est tout à fait conscient hein. Ici on le voit bien qu'il y a des exigences des contraintes qui s'imposent au propriétaire social qu'est le futur retraité en l'occurrence hein, et qui ne s'imposent pas au propriétaire privé que serait par exemple l'épargnant qui a une assurance vie et qui peut faire ce qu'il veut de son assurance vie pratiquement. Le propriétaire social qu'est le retraité n'est pas libre de sortir de sa propriété hein. Il n'est pas libre de reprendre ses économies, parce que justement, ce ne sont pas des économies. Hein. Il n'est pas libre de les consacrer à d'autres emplois qu'au financement du dispositif qui lui assure une sécurité sociale. Une sécurité économique, finalement, même pour être plus précis, pour ces vieux jours. Notons que ces mêmes contraintes affectent le propriétaire social relativement à l'héritage de sa propriété. Ça n'a pas non plus échappé à la perspicacité des auteurs qui réfléchissent aux conséquences de cette nouvelle forme de propriété au XIXe siècle. J'en veux pour exemple l'analyse d'un juriste cité par Jacques Donzelot dans La police des familles. C'est tiré d'un ouvrage de donc, Alejandro Alvarez, hein, qui a produit une thèse en 1899 qui s'intitule De l'influence de la politique, de l'économie et du social sur la famille. Je te laisse passer le slide. Hein. Et on voit le même type de prise de conscience des contraintes impliquées par la propriété sociale sur l'héritage. Tandis que la transmission du patrimoine de la famille bourgeoise se fait par testament ou abentestat, pour la famille ouvrière, il n'est plus question de transmission par testament. Quant à la succession ab intestat, elle n'est plus réglée de façon uniforme, mais dépend des lois et des règlements adoptés par les diverses institutions qui ont pour but la création de ce patrimoine pour l'ouvrier. Donc il utilise aussi le terme de patrimoine pour qualifier l'héritage, les lois sur l'héritage. Comme nous venons de le dire, la question de la liberté de tester ne se pose pas ici, parce que les diverses institutions de prévoyance ne proposent pas de former un patrimoine dont l'ouvrier pourrait disposer par testament à sa guise, mais de protéger sa famille, qui sans secours des dites institutions serait une famille déclassée à la charge de l'assistance publique. Donc vous voyez qu'également pour Alvarez, ce ne sont pas les règles du droit successoral issues du code civil qui consacrent la liberté de l'individu sur sa propriété, même après sa mort, et qui s'appliquent à cette forme ici de propriété sociale que sont les assurances ouvrières. Non, les règles relatives à la transmission de la propriété sociale sont des règles qui consacrent autre chose, justement, que la liberté souveraine, la liberté individuelle souveraine, qui consacrent précisément ce que la propriété privée permet d'acquérir. La même chose, à savoir la sécurité. La sécurité de l'individu et de ses proches, des gens qu'il a sous sa charge, face au risque de l'existence. La meilleure façon de concevoir et de résumer la différence substantielle entre propriété privée et propriété sociale, du moins de ces formes de propriété sociale que constituent les revenus de l'assurance obligatoire, c'est peut-être encore de la traduire dans les termes ou dans les catégories correspondant aux attributs classiques du droit de propriété, du droit de la propriété dite bourgeoise, l'usus, le fructus et l'abusus, catégories qui sont dérivées de la distinction en droit romain entre le jus utendi, l'usus justement, et puis le jus abutendi, le fructus plus l'abusus sur le dominium. Mis à part ces biens spéciaux que sont le travail humain et la terre, dont la réduction à une marchandise n'a cessé de prêter à controverse, il suffit de, je rappelle ce qu'a pu écrire Carl Polanyi là-dessus pour s'en convaincre, le droit de pleine propriété des biens meubles et des biens immeubles implique normalement l'usus et le fructus, mais aussi l'abusus, on l'a bien rappelé hier, donc je ne veux pas non plus trop m'y appesantir. Contrairement à ce droit de pleine propriété, le droit de propriété sociale donne à son détenteur l'usus et le fructus, l'usufruit donc, mais elle ne lui confère en aucune manière l'abusus, et j'ai beaucoup aimé hier le rappel des termes proudhoniens pour parler justement du propriétaire social. Il ne parlait pas de propriétaire social, mais il parlait de tenancier ou de gérant. C'est vraiment celui qui a l'usufruit, mais qui n'a pas l'abusus, le tenancier, le gérant. Ça renvoie au même concept. Donc les assurés sociaux sont, à l'égard des revenus des assurances, comme de simples, effectivement, usufruitiers, on pourrait dire presque tenanciers de biens. Ils ne sont pas propriétaires au sens exclusiviste, au sens absoluiste que le droit civil du Code civil a donné à ce terme, puisque ces revenus ne sont pas effectivement tirés de biens dont on peut, l'article 544 du Code civil a été rappelé hier, j'en rappelle juste la fin, dont on peut disposer de la manière la plus absolue. Cette proximité du droit de propriété sociale avec l'usufruit a été tout à fait bien vue par Léon Bourgeois dans son ouvrage de 1996, Solidarité, dont on a parlé hier. J'en cite ici un extrait dans le slide suivant. « Ce n'est pas pour chacun de nous en particulier que l'humanité antérieure a amassé ce trésor. Ce n'est ni pour une génération déterminée, ni pour un groupe d'hommes distincts. C'est pour tous ceux qui seront appelés à la vie que tous ceux qui sont morts ont créé ce capital d'idées, de force et d'utilité. » C'est donc envers tous ceux qui viendront après nous que nous avons reçu des ancêtres charge d'acquitter la dette. C'est un legs de tout le passé à tout l'avenir. Chaque génération qui passe peut vraiment se considérer comme en étant l'usufruitière. Donc on a toujours ce vocabulaire saint-simonien et qui renvoie à un droit de propriété auquel on a restreint l'abusus. Elle n'en est investie qu'à charge de le conserver et de le restituer fidèlement. Donc ce capital dont parle Bourgeois a vraiment les caractères, je crois, de la propriété sociale. Si Bourgeois se permet ici d'étendre à toute la richesse matérielle et intellectuelle de la société cette notion de capital, c'est parce qu'il envisage sous un angle un peu déontique, finalement, en termes de devoir plus qu'en termes de droit, et puis parce qu'aussi il l'envisage sous un angle beaucoup plus collectif que je ne le fais ici, de toute une génération, alors que Fouillé, par exemple, l'envisageait sous un angle individuel. Mais enfin, demeure ici l'idée essentielle, je crois, de l'usage d'un bien non susceptible d'abus, de l'usage d'un bien à la manière d'un simple usufruit. Voilà pour les ressemblances et les différences au niveau substantiel entre propriété privée et propriété sociale, mais à s'en tenir encore une fois à ce seul niveau substantiel d'analogie, on risque de ne pas pouvoir donner à la propriété sociale toute la portée qu'on est par ailleurs en droit de lui conférer. En toute rigueur, cette analogie ne vaut en effet que pour ces formes particulières de propriété sociale que constituent les revenus de remplacement provenant de l'assurance sociale obligatoire. Mais il existe un autre niveau d'analogie. Un autre niveau d'analogie, non pas au niveau de la substance cette fois, mais au niveau de l'effet, au niveau de la fonction. C'est la même qui est indiquée par Fouillé dans l'extrait précédent, quand il parle de prévoyance et de garantie pour l'avenir. C'est ça la fonction. Ce niveau devrait, je crois, nous permettre de rapatrier, sous la juridiction de ce concept de propriété sociale, quantité d'institutions missionnées pour tout à fait autre chose, finalement, que la fourniture de revenus de remplacement, des institutions, des dispositifs qui fournissent aux particuliers des jouissances de biens ou des jouissances de services qualitatifs. Ces institutions, ce sont nos classiques services publics, éducation, santé, transport, énergie, justice, etc. Et c'est aussi le logement social, bien sûr. Il va sans dire que c'est aussi à ce niveau fonctionnel, à ce niveau où l'analogie entre propriété privée et propriété sociale devient, oui, purement fonctionnelle, que nous paraît la voie la plus féconde à travailler quand on s'interroge sur les liens entre solidarisme et économie sociale et solidaire, et plus précisément, sur la possibilité et l'intérêt de qualifier les activités des entreprises de l'ESS comme des activités productrices de propriété sociale. Commençons donc par préciser ce qui nous autorise ici à parler...
Très peu de temps.
D'accord. J'en ai pas non plus pour très longtemps. Peut-être que la dernière partie sur les rapports entre étatisme et solidarisme seront quelque peu écourtés pour pouvoir tenir le temps. Commençons par préciser ce qui nous autorise à parler ici d'analogie fonctionnelle entre propriété sociale et propriété privée, élargie aux services publics et au logement social. Quelle serait donc cette propriété, cette fonction, identique ou du moins analogue que remplirait la propriété privée et la propriété sociale? Il y a deux mots-clés, je crois, qui résument cette fonction. Ce sont les mots sécurité et indépendance sociale. Ça serait trop long ici de rentrer dans les développements des sociologues comme Hatzfeld ou Castel à ce sujet. Mais je crois que c'est une chose démontrée que la propriété privée en Occident a joué historiquement le rôle de ce qu'on pourrait appeler une protection individualisante face au risque de privation de revenus encourus par les hommes au cours de leur existence. Protection donc en raison des aléas de la vie sociale et économique qui place tout un chacun à certains moments de son existence dans l'incapacité provisoire ou dans l'incapacité permanente de subvenir par son propre travail aux besoins et aux besoins de ceux qu'il a sous sa charge. Ces aléas sont bien connus, sont bien répertoriés. C'est d'abord les circonstances de la vie qui vous conduisent à l'infirmité ou à l'invalidité personnelle, la maladie, l'accident, le handicap, la vieillesse ou le jeune âge, ce que Castel appelle la handicapologie, j'aime bien cette catégorie. Et puis c'est aussi les circonstances qui vous conduisent à l'indigence sans vous invalider pour autant, et dont les causes sont macroéconomiques, comme le chômage et le sous-emploi essentiellement. Face à ces situations, aux causes tout à fait diverses, mais qui ont ceci en commun, qu'elles placent l'homme dans l'incapacité provisoire ou permanente de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, la propriété privée, effectivement, a toujours été un rempart. Je rappelle cette phrase de Chargy, tout à fait extraordinaire quand même, qu'il écrivait en 1902. En ce qui concerne la classe possédante, la propriété constitue une institution sociale qui rend les autres à peu près superflus. Donc même un coopérativiste comme Chargy reconnaissait la fonction historique extraordinaire qu'avait jouée la propriété privée en tant que moyen de sécurisation de l'existence. Alors, elle n'a pas été bien sûr le seul rempart, mais la propriété privée a ceci d'original par rapport au système traditionnel de protection que sont la famille, que sont la communauté ethnique, la communauté de voisinage, la paroisse, qu'elle protège sans assujettir, justement, sans désindividualiser. C'est un mode de protection qui ne requiert pas en contrepartie, comme c'est le cas pour les autres systèmes de protection traditionnels, l'assujettissement, la subordination à quelques personnes que ce soit. C'est un mode de protection, autrement dit, qui s'opère sans perte de l'interdépendance sociale, pour utiliser un concept un peu plus abstrait. Eh bien, on s'est avisé, et Fouillé s'en avisait déjà dans son texte de 84, que c'est cela même que permet aussi la propriété sociale. Protection non désindividualisante. Mais elle le permet en outre avec un avantage considérable sur la propriété privée qui tient au caractère généraliste et démocratique également des institutions productrices de propriété sociale. Ce qu'ont bien vu des sociologues comme Hatzfeld ou comme Castel, c'est que la propriété sociale assure la sécurité ou la protection sociale de l'individu non propriétaire, non possédant. C'est beaucoup plus démocratique que la propriété privée. Propriété privée qui assure la protection de l'individu propriétaire, exclusivement. Ce qui, dans nos sociétés composées en majorité d'individus sans patrimoine, ou avec des patrimoines tout à fait insuffisants, limite forcément ce bénéfice à une petite minorité. Autrement dit, la propriété sociale a permis de déverrouiller l'accès à cette forme de protection sociale non asservissante, non désindividualisante, dont était exclue traditionnellement la grande masse des non-propriétaires. Pour prendre un peu de recul, je dirais que la propriété sociale, c'est le concept, peut-être le seul concept qui, en nous déportant résolument du côté de la fonctionnalité, d'une fonctionnalité non pas proximale mais fondamentale, c'est le seul concept peut-être qui nous met en mesure de comprendre de manière unifiée l'apparente hétérogénéité du secteur social non assistentiel. C'est le concept qui permet de comprendre positivement en quoi consiste la convergence historique effective, mais jusqu'à présent mal conscientisée, des divers mécanismes caractéristiques de nos social-démocraties modernes. On pourrait utiliser un peu le vocabulaire de Kant ici, qui me paraît judicieux. Avec la propriété sociale, on a peut-être trouvé quelque chose comme le concept de la synthèse du divers, la synthèse du divers social, hein, s'entend ici. Je vais un peu plus loin dans cette analyse et ensuite je m'arrêterai là parce que je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Synthèse du divers social opérée par le concept de propriété sociale. Les services publics, le logement social, satisfont effectivement à des besoins de l'individu non propriétaire qui se trouve en situation de non-travail ou de sous-travail, de l'individu donc dont les revenus issus du travail ne lui permettent pas, ou en tout cas insuffisamment, de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais à la différence des revenus que procure la propriété privée ou les assurances sociales, il s'agit ici d'institutions de propriété sociale qui fournissent des prestations non libellées en termes monétaires, hein, qui fournissent directement des biens et des services. Mais de la même façon que la propriété privée et les assurances sociales, et c'est cela l'essentiel, je crois, c'est ça qui fait qu'ils ont droit légitimement au qualificatif de propriété sociale, services publics et logements sociaux fournissent des protections non désindividualisantes, des protections non réassujettissantes pour l'usager. Ainsi, ces ressources jouent finalement le même office, la même fonction que les revenus de remplacement. Elles pourvoient aux besoins des individus, notamment des individus démunis de ressources, qu'il s'agisse de ressources de la propriété privée ou des ressources du travail, mais sans les obliger à se rendre dépendants d'une autre personne pour assurer leur protection, sans les placer en situation d'obligé, donc, vis-à-vis d'autrui. Alors, j'aurais voulu aller un peu plus loin pour maintenant articuler ma réflexion à cette entreprise de démarcation de l'ESS à l'aide de ce critère que pourrait être la propriété sociale. Mais je crois qu'il faut que je respecte le timing pour que l'après-midi se passe dans de bonnes conditions, donc on pourra toujours prolonger les discussions dans le débat ou voir par ailleurs comment on pourrait en parler d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.